la semaine passée, on a voulu toucher le point qui fait frémir tous les Européens, c'est-à-dire le sacrifice humain. Et chez les Aztèques, c'est vrai que c'est la chose peut-être la plus déterminante quand on veut parler d'énergie, et c'est la chose la plus simple à comprendre aussi. Alors c'est vrai que les Aztèques sont un peu compliqués. La dernière fois, on a raconté une légende qui se conçoit très bien dans un monde d'agriculteurs qui sont en train de devenir des guerriers. C'est-à-dire qu'avant les Aztèques, on avait tout basé sur l'agriculture avec une théocratie, des dieux qui gouvernent et des souverains qui, eux, n'étaient que des grands prêtres. Et tout à coup, chez les Aztèques, eh bien, on décide de passer à l'attaque, c'est-à-dire d'une façon un peu imaginative, de créer un grand tourbillon qui va rechercher toujours plus loin de la matière humaine et en même temps une extension territoriale. Or, chercher de la matière humaine, c'est mettre en place un moteur qui n'est alimenté que par le sacrifice humain, donc les cœurs des gens qu'on va chercher comme ennemis, comme captifs ailleurs. Alors, c'est un thème un peu difficile, d'accord. Mais si on nous imaginait ce qui s'est passé réellement à partir de la légende de base, cette légende, on peut peut-être la rappeler en deux mots, c'est le fait que notre mère divine, Coatlicue, pour ne pas la nommer, voit tout à coup tomber du ciel sur sa montagne une petite boule de plume, elle la glisse dans sa ceinture, au bout de quelques semaines elle est enceinte, et ses premiers enfants, la lune, les planètes, les étoiles qui sont déjà dans le ciel, sont terriblement jaloux et décident de la mettre à mort parce qu'ils ne connaissent pas le père. Et cet enfant qui est dans son ventre va naître tout à coup tout armé comme il l'avait promis, et va défendre sa propre mère sur le sommet de cette montagne. Donc, on s'imagine la scène, il y a du bas de la montagne la lune, une femme, qui monte armée et qui veut assassiner sa propre mère. Et du ventre de la mère sort Huitzilopochtli, pour ne pas le nommer non plus, le grand dieu de l'énergie solaire des Aztèques, qui est un véritable guerrier, qui découpe sa sœur en petits morceaux et la déjette en bas de cette pyramide, puisque cette montagne n'est rien d'autre qu'une véritable pyramide. C'est le premier sacrifice. Et c'est un sacrifice de Dieu, bien sûr, mais on sent bien que ces dieux ont été humanisés, et c'est un peu comme si un guerrier tuait tout à coup la déesse de l'agriculture. Alors c'est un changement énorme, c'est en somme une justification historique pour dire ce n'est plus le monde paysan qui est important, c'est le monde solaire. Or c'est vrai que tout à coup, au sommet de cette pyramide aztèque, on aura un temple pour le soleil, l'énergie, Huitzilopochtli, mais on laissera en parallèle, en jumeau, si j'ose dire, un deuxième temple qui est celui de Tlaloc, le dieu de la pluie et de l'agriculture. Alors, c'est un peu compliqué, mais simplement que dans notre tête, maintenant, on a un diagramme, on a une idée très précise de cette fausse montagne qui va devenir le centre énergétique de tout le pouvoir aztèque. Alors, comment l'alimenter? Comment le faire fonctionner? Eh bien, en répétant ce premier sacrifice. Alors, c'est ça qui était intéressant lorsqu'on a fait les fouilles tout à fait hasardeuses du Templo Mayor, c'est qu'en fait, deux électriciens qui travaillaient sous la rue Guatemala, un soir de février 1978, sont tombés sur un bloc énorme qui faisait 3,40 m de côté. Et ce bloc, une espèce d'immense calendrier aztèque, parce que tout le monde a l'image du calendrier aztèque dans la tête, eh bien, en sculpture, c'est certainement la plus belle qui nous a été transmise au cours de ces dernières années, est une sculpture où on voit une déesse très vieille, avec les seins tombants, écrasée comme cela sur la pierre, en haut relief, et effectivement, elle a les membres complètement tranchés. Elle a la tête tranchée, les bras tranchés, les jambes tranchées, il n'y a que ce tronc au milieu, et puis ses bras articulés, désarticulés, devrait dire, et puis la tête de profil qui est en haut. Et on voit la chair, on voit le sang, on voit chaque dessin symbolique qui nous représente cette première sacrifiée. Alors, l'endroit où on l'a retrouvée, c'est le trottoir de la rue Guatemala, d'accord? Mais ensuite, on a eu pratiquement 10 ans de travaux pour rechercher tout ce qui se trouvait autour de cette pierre, parce que ça a été une bombe sur le plan archéologique. Retrouver un calendrier aztèque, ça n'était pas arrivé depuis le début du siècle. Alors, une période un peu difficile au Mexique, un côté politique, etc. On décide d'investir dans ces fouilles, et tout à coup, on trouve 11 pyramides, les unes sur les autres, et on retrouve le cœur véritable, c'est un mauvais jeu de mots, de la nation mexicaine. Et là, par ces 11 pyramides, on va se rendre compte qu'effectivement, 11 fois, il y a eu 2 temples. Côte à côte, et que 11 fois on a sacrifié des êtres humains sur ces temples, et particulièrement du côté de Huitzilopochtli. Alors on peut maintenant remonter ces 140 marches que les Espagnols nous ont décrites, parce qu'en fait on ne les a jamais vues, on ne les reverra jamais, puisqu'on a à peine un bulldozer comme ça qui a tout effacé et qui nous a laissé quelques fondations. C'est les Indiens eux-mêmes qui ont rasé leurs temples, on a mis à côté la cathédrale, on a construit le palais de Cortés, etc. Et en fait on a seulement laissé ces fondations, et c'est sous ces fondations qu'on a retrouvé Coyolxauhqui. Alors maintenant, vous montez les 140 marches, et au sommet, vous allez trouver la pierre des sacrifices, et vous allez rentrer dans le temple de Huitzilopochtli. Donc le mouvement peut commencer, le circuit solaire peut commencer. Le soleil est au sommet, il est au zénith, il vient de l'ouest, il monte au zénith. Qu'est-ce que je raconte? Il part de l'est, il arrive au sommet et il va se coucher à l'ouest. Et c'est du côté ouest, justement, que les corps dévalent les 140 marches et viennent se reposer sur la première image, qui est ce fantastique plateau, qui n'est autre que la sculpture, cette statue où l'on voit, enfin ce plateau où l'on trouve notre déesse de la Lune. Donc on reforme un circuit. Alors on voit très bien maintenant ce guerrier qui a été à la guerre, effectivement, qui a fait souvent des dizaines, des centaines de kilomètres. Mais là, en parlant du sacrifice, il faut déjà dire un peu comment ça se passait, parce que quand nous on s'imagine la guerre, on voit une attaque terrible. Pas du tout. Les Aztèques se donnaient rendez-vous, ils envoyaient leur carte de visite, et puis ils se donnaient rendez-vous sur un champ de bataille, et on essayait de prendre un maximum de prisonniers, ils étaient tous ramenés dans le centre cérémoniel, donc par exemple pour nous, si on est Aztèque, à Mexico, et puis là, eh bien effectivement, celui qui avait vaincu son semblable et qui lui avait simplement tenu une mèche de cheveux, et qui l'avait vaincu par ce seul geste, eh bien il avait le droit de lui prendre la main, de l'amener au pied des marches et de laisser monter ses 140 marches pour qu'en haut, on lui ouvre le poitrail avec un couteau de silex, qu'on lui arrache le cœur et que ce cœur soit simplement élevé en tant que matériau solide vers le soleil de midi, que le sang lui-même descende déjà ses 140 marches et qu'il vienne abreuver la terre. Il y a toute une symbolique entre nourriture solide et nourriture liquide. Et avec cela, effectivement, on a le carburant absolu des dieux. Ce qui est intéressant dans cette idée de prendre la main d'un sacrifié, de le faire monter vers le temple, de le sacrifier ensuite, bon, c'est pas tellement qu'on vous redonne la main en cadeau, mais c'est le fait que ce cœur soit sorti comme étant la chose la plus précieuse qui soit. Alors on peut se poser la question de savoir pourquoi les Aztèques, partis d'une légende, sont arrivés effectivement à un tel résultat. C'est pas ça vraiment qui me touche beaucoup. C'est en fait l'accélération de la chose. Pourquoi à partir d'un sacrifice, ce qui a existé dans toutes les cultures primitives, on soit arrivé à des dizaines, des centaines de sacrifiés et toujours plus de sacrifiés, donc une extension territoriale toujours plus grande. Je crois que la première chose qu'il faut savoir, c'est que les Aztèques sont menteurs. Étant menteurs, la légende de Coyolxauhqui qui est tué par son propre frère, c'est naturellement une invention des Aztèques. C'est-à-dire qu'il y a une justification constante où, au cours de l'histoire aztèque, on invente les histoires qu'il faut pour que ces histoires-là deviennent des histoires qui permettent l'extension territoriale. C'est-à-dire que pour la politique, le pouvoir, la religion du lieu, on a brûlé des bibliothèques entières, on a repris des mythes anciens, on les a réinterprétés, et puis on est reparti. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir comment un homme, normalement constitué, puisse philosophiquement supporter cette idée de la mort. Parce qu'en fait, c'est ça qui nous intrigue beaucoup. Comment est-ce qu'un homme qui a simplement attrapé la mèche de cheveux de son ami guerrier, puisqu'ils sont habillés de la même manière, ils ont vécu de la même manière, ils sont arrivés tous ensemble à ce résultat d'être un militaire, accepte-t-il, simplement parce qu'on l'a attrapé par les cheveux, de se soumettre complètement et qu'il sait effectivement accepter en même temps sa propre mort sacrificielle? Elle n'est pas drôle comme mort. Parce qu'en fait, lorsqu'on vous arrache le cœur comme ça, en vous ouvrant le poitrail avec un couteau de silex, c'est pas un rasoir suédois. J'entends par là qu'il faut déjà concevoir ce qu'est la douleur. Et alors là, on rentre dans un autre domaine qui est très précolombien, c'est la drogue. C'est tout ce qui fait qu'effectivement, pour supporter un déséquilibre énergétique, il faut également trouver un autre déséquilibre pour que ça fonctionne. Et ces gens-là montaient en état d'ivresse, montaient drogués, devaient avoir le sourire. Donc, on devait aussi leur apprendre à mourir, ou plutôt à savoir que la mort était le meilleur moment de l'existence. Étant le meilleur moment de l'existence, ceci prouve qu'à l'instant où votre existence a commencé, vous êtes déjà en devenir de mort. Ce sont des petits détails, mais philosophiquement parlant, ils sont tellement différents de notre conception de la vie et de la mort, qu'on comprend mieux qu'un Aztèque avait horreur de mourir dans son lit. C'était la mort la pire de toutes. Quelqu'un qui mourait sur son grabat, eh bien, il avait perdu sa chance de mourir de manière glorieuse, donc énergétique. Alors, je vais vous surprendre, parce qu'en fait, le meilleur des morts pour un précolombien, et si une personne est capable de le faire, des millions sont capables d'accepter le sacrifice humain, même si on me disait que sacrifier ma propre fille n'est pas la chose la plus sympathique du monde, mais étant aztèque, je comprends qu'on ait pu le supporter, c'est que la meilleure solution que l'on donnait à un vivant, c'était de pouvoir éventuellement se suicider. Là, je vais jusqu'à l'extrême de l'absurde précolombien. Le plus haut des paradis était réservé aux guerriers morts sur le champ de bataille, aux guerriers morts sur l'autel des sacrifices et aux suicidés. Donc, que fait un suicidé dans la tête d'un aztèque ? Il offre son propre sacrifice, sa propre vie à ses dieux, donc il a choisi l'heure de sa mort. C'est exactement comme quand on s'arrête devant une station d'essence et on dit, voilà, maintenant, je n'ai plus d'essence, je vais en mettre dans ma voiture. Eh bien, pour que la vie et la société continuent, parce que la dernière fois, on avait bien parlé de ce problème de société, de ce problème d'énergie, qui fait que toute une société, tout un cosmos, tout un monde, ne vit que parce qu'on met un peu de carburant dans l'immense machine cosmique. Alors, c'est vrai que si on est tous dépendants les uns des autres, ça change complètement la problématique. Donc, un suicidé, il est quelqu'un de fantastiquement intéressant, puisque par sa propre mort, il est capable de faire son propre choix d'énergie pour les autres. Ça, c'était pour le XVIe siècle, hein, parce que tout ce qu'on a raconté sur le sacrifice, la façon de recevoir en cadeau la main de son ami, son frère, qu'on avait dorloté pendant une année, qui maintenant était là-haut, le poitrail ouvert, et qu'on était en train de déjeter en bas des marches, c'est vrai que c'est un petit côté un peu sordide. Il y avait ces banquets aussi, ces fantastiques banquets anthropophages qui réunissaient toute la ville de Mexico, ou lors d'une grande bataille, ou lors d'une grande fête, selon le mois, selon l'époque, parce que le calendrier fonctionne aussi comme un fantastique moteur. Eh bien, il fallait que la ville entière communie. Voilà un aspect qui nous paraît étrange. Quand je dis réellement, après 3 semaines de Mexique, un voyageur judéo-chrétien, que la communion n'est pas tellement différente, parce qu'en fait, à l'instant où on vous présente le corps et le sang du Christ, ça m'est arrivé en tant qu'adolescent de me dire, tiens, si c'était vraiment du sang et si c'était vraiment de la chair. L'Aztèque disait, c'est vraiment du sang, c'est vraiment de la chair, et ça avait le goût de sang, et le goût de chair, mais divinisé. Donc le résultat est exactement le même, que ce soit une hostie ou que ce soit la main de son propre ami, que l'on déguste gentiment devant un plat de tortilla à la maison, là je suis volontairement sordide, il faut croire que c'était rentré dans les mœurs, et qu'elle meurt. Alors, si on prend maintenant le présent, parce qu'on peut aussi au Mexique se rendre compte que ce qui est le plus fascinant, ce sont ces contrastes avec la vie d'aujourd'hui, eh bien, un paysan qui a besoin de faire fonctionner son moteur du temps, son calendrier agricole, qui a besoin de savoir ce qui va advenir de son maïs, qui a besoin d'avoir un revenu au bout de l'année, qui en général ne l'a pas forcément, donc qui a le problème de la ferveur, qui a le problème de la prière, qui a le problème de la magie. Donc il doit sans arrêt s'occuper de tout cela pour être sûr que ça fonctionne. Eh bien, il va, sacrifice suprême aujourd'hui, prendre le poulet le plus dodu de sa basse-cour et il va partir sur le lieu sacré avec un sorcier. Et puis il va dépenser une fortune avec des bougies, il va prendre des pétales de rose, il va offrir de l'alcool. Et c'est vrai que là, tous ces côtés dont on parle maintenant, toutes ces offrandes, l'encens, les pétards, le sacrifice de son poulet, on lui coupe le cou, on arrose l'idole, etc. C'est de nouveau une dépense. C'est vrai, au sens où nous l'entendons, mais lui, il le comprend comme une dépense énergétique obligatoire pour l'alimentation générale de son univers. Or, son univers, c'est simplement printemps, été, automne, hiver. Donc, le maïs ne peut pas être fertile si ce genre de sacrifice n'a pas existé. D'autant plus que c'est une plante hybride. Donc, en fait, il a très bien compris qu'au moment où il va planter son premier grain de maïs, il va se passer quelque chose d'étrange dans la terre. Ce qu'on oublie, c'est que ces gens-là ont une sensualité plus qu'une sensibilité, qui correspond au fait qu'un grain planté en terre, c'est aussi beau qu'un enfant qui naît, et qu'il le voit uniquement de manière magique et religieuse. Et ce grain de maïs qui va pouvoir surgir, il lui faut toutes les autres divinités autour. Lui-même est le jeune dieu qui ressuscite. Voilà, tout à coup, on a des langages extrêmement curieux. Et puis, il faut que la planète Vénus, il faut que la lune soit là, il faut que le soleil soit là, il faut que la pluie soit là. Et voilà qu'on a de nouveau tout le panthéon des précolombiens qui apparaît. Et à l'instant où ce don de la personne, ce don du porte-monnaie existe, on remarque que tout à coup les fêtes chrétiennes deviennent des fêtes fantastiquement païennes. Donc on retombe dans la Vierge de Guadeloupe, on retombe dans les grands poncifs des belles fêtes indigènes, où sous un couvert catholique, tout ce qui existait avant s'est caché sous un syncrétisme un peu confus parfois, mais où on remarque surtout une dépense extraordinaire, une explosion fantastique pendant ces 5 jours néfastes, puisque chaque fête est ponctué de la même manière, selon le calendrier précolombien, c'est-à-dire 18 mois de 20 jours, plus les 5 jours qui vont permettre de façon très étrange de remettre les choses en place et de repartir à zéro. C'est une belle leçon d'équilibre, parce que c'est ça, vivre toute sa vie sur un fil de funambule, c'est une vie d'Indien.
Thank you.
Alors, involontairement, là, on a touché un point qui est un point essentiellement mexicain, c'est l'importance qu'on donne au temps. Et quand on parle du temps, on vient de se rendre compte qu'il y avait un temps précolombien, qu'il y avait un temps indien, on dirait qu'il y a aussi un temps de mexicain contemporain. Ce qui trouble toujours, parce que notre sujet c'est quand même le voyage, c'est comme le fait d'aller visiter ce pays, c'est d'aller voir le Mexique, ce qui trouble celui qui atterrit à Mexico, c'est le rythme des choses. Une ville de 18 millions d'habitants qui fonctionne, qui a un métro où rentrent tous les jours 6 millions d'habitants. Il y a un côté trépidant, et puis en même temps, chaque fois qu'on gratouille, on se dit, tiens, ces gens-là ne vivent pas comme nous, n'ont pas la même notion du temps, de l'énergie, du travail. Alors ça, c'est peut-être le côté le plus intéressant de ce qui reste du passé, c'est de se rendre compte que sous des atouts extrêmement contemporains, le Mexicain a encore dans sa tête un fonctionnement, une philosophie, un devenir, un but qui n'a strictement rien à voir avec un Zurichois qui va le matin à son travail. Alors comment est-ce qu'un Mexicain pense, vit, conçoit sa famille, ses enfants, sa mort, aujourd'hui? On pourrait déjà trouver la réponse de Guadalupe qu'on avait donnée, c'est-à-dire 600 000 personnes se retrouvent devant la Vierge de Guadalupe pour des raisons précolombiennes, c'est déjà étrange. Et quand vous rentrez par exemple dans une boulangerie le 1er novembre et que vous voyez que toute la boulangerie est décorée avec des têtes de mort et que vous achetez pour vos meilleurs amis, pour vos enfants, une petite tête en sucre avec le prénom dessus, vous dites tiens, ça c'est ce que je croyais connaître du Mexique. C'est-à-dire qu'on l'a tous vu, on a tous vu un bout d'un film d'Eisenstein, on a tous vu une image d'un Mexicain qui joue au macho et qui joue avec la mort. Et puis ensuite, à partir de là, il y a le squelette, il y a le côté un peu macabre, il y a des images encore plus curieuses qui ressortent les vieux films mexicains. Et là, on a envie de creuser, de savoir pourquoi ces gens-là, aujourd'hui, en pleine époque contemporaine, continuent à penser comme ils le faisaient déjà auparavant. Et c'est là qu'on se rend compte qu'effectivement, des phénomènes qui sont énormes, c'est difficile, même si un Mexicain est en face de moi maintenant, il y en a sûrement qui m'écoutent, et il y en a beaucoup à Genève d'ailleurs, ça m'est arrivé de lancer des bouteilles à la mer, par exemple, d'écrire une lettre à des amis en disant, tiens, cette nuit j'ai appris que le Mexique venait de souffrir le plus grand tremblement de terre, parce qu'à l'époque les médias nous ont parlé d'une Mexico complètement détruite, et c'est vrai qu'il y avait 1000 bâtiments importants, et qu'il y avait des centaines, des milliers de morts, beaucoup qu'on avait cachés, et puis on retourne sur place, et puis qu'on voit que c'est pour la première fois au Mexique qu'il y a une telle solidarité, que les gens s'en sont sortis, qu'ils n'ont pas parlé de leur mort, qu'ils n'ont pas vécu la mort comme on pensait qu'ils allaient la vivre. C'était un drame profond. Il y a un traumatisme extrêmement profond. Mais c'est difficile de parler de ces choses-là de cette manière. Mais c'est vrai qu'un phénomène identique ailleurs dans le monde ne serait pas pris de la même manière. Je n'entends pas, et cela sans aucun sens de l'humour noir, je n'entends pas le tremblement de terre arménien de la même manière que j'ai entendu et vécu le tremblement de terre au Mexique. C'est terrible comme image, mais ça signifie effectivement que les vivants ont une autre notion de la mort de leurs semblables. Alors je vais plus loin, parce que je crois que ce qui est fabuleux au Mexique, c'est que on a peut-être là un endroit qui est en train de nous apprendre, et nous le faisons sans le savoir, à vivre aux dépens des autres. Parce que c'est ça la grande leçon du Mexique. C'est que c'est une des seules sociétés qui a tenu jusqu'au XVIe siècle, si j'ose dire, et qui a même perduré à travers l'époque coloniale, qui était consciente du fait que les actes de chacun étaient reliés aux actes de tout le monde. Je m'explique, hein, c'est un peu compliqué, mais je veux dire par là que si tout à coup quelqu'un fait une faute, si quelqu'un meurt, il le fait toujours pour quelqu'un d'autre. Donc c'est une société qui continue à vivre en société. Je vais prendre un exemple encore beaucoup plus cruel. Bhopal, l'explosion de gaz à Mexico. Ça, par exemple, philosophiquement parlant, je trouve que c'est terriblement présent. Après tout, moi je bois une bière maintenant parce que j'ai soif, ou je bois une eau minérale parce que j'ai soif. Je mange quelque chose parce que j'ai faim. C'est toujours un peu aux dépens de quelqu'un d'autre. Je veux dire que d'une façon ou d'une autre, on vient de rentrer dans une société, on est en train de faire une société qui, on le sait, est terriblement matérialiste. Or, ce que les Aztèques ont inventé, c'est une machine implacable, un cosmos qui ressemble étrangement au nôtre, un soleil qui se consume étrangement comme le nôtre. C'est-à-dire qu'il y a à peine 20 ou 30 ans, que nos astrophysiciens ont inventé, ont remarqué que l'énergie se dépensait sans cesse et qu'elle se reproduisait. C'est-à-dire qu'il y avait un aller-retour des choses, une sorte de forme cyclique du monde et des choses. Et que pour que je puisse vivre, il fallait qu'autre chose meure. Alors, dire cela, on dirait que c'est une tarte à la crème, mais c'est très important parce qu'involontairement, aujourd'hui, nous acceptons tous que, de manière matérielle, nous ayons un confort parce que quelqu'un d'autre a subi une forme d'inconfort ou une catastrophe. C'est notre lot de demain. Enfin, je pense que dans moins de 10 ans, on annoncera la mort de 2 millions de personnes de façon tout à fait naturelle parce qu'il y a eu un cataclysme X, Y, Z. L'Aztèque, tous les jours, dans son journal qui n'existait pas, voyait mourir 100, 200, 1000, 2000 personnes sur l'autel des sacrifices, en sachant pertinemment que le choix de ces 2000 personnes était fait pour que lui puisse survivre, puisse continuer à vivre. Donc, en fait, j'étais un peu long, mais il allait chercher, par exemple, à l'extérieur, chez ses voisins, cette énergie qui permettait à sa propre société de continuer à survivre. Alors, il allait même chercher dans sa propre famille son enfant, comme Isaac, sacrifié, et qui était accepté totalement. Le sacrifice n'était pas arrêté. Parce qu'effectivement, par ce sacrifice-là, d'abord Isaac gagnait quelque chose de supplémentaire, c'est-à-dire que son paradis, et il y en avait plusieurs, était meilleur que tout autre. Et celui qui l'avait offert en sacrifice sachait que non seulement toute la famille, mais toute la société qui l'entourait était revalorisée. Alors là, on comprend mieux le mécanisme interne d'un pays, mais je dirais le mécanisme de sociétés plus petites comme les sociétés indiennes, où tout le monde est, disons, dépendant de tout le monde. C'est une grande leçon de civisme, parce que une société soudée de cette manière, je crois que c'est assez unique dans les milieux tribaux, ou même dans le Mexique d'aujourd'hui. On va parler d'une actualité comme l'actualité qui nous est transmise à travers les catastrophes qui ont touché le Mexique ces dernières années. On remarque que c'est un pays qui est étrangement visé par sa structure. Je sais pas, rien que de penser à son passé immédiat. Il n'y a pas d'autre pays qui a eu une révolution aussi incroyable. Il n'y a pas de pays qui a inventé des choses de façon immédiate aussi violemment. Sans vouloir plaisanter, on s'imagine pas du tout au jour le jour que la première république communiste a été fondée au Mexique en 1905, donc 2 ans avant l'Union soviétique. Alors, plus on creuse le Mexique, plus on se dit que c'est un pays de contraste, c'est vrai, un pays à étage, un pays affolant, mais que c'est un pays qui a cette fantastique folie de l'invention immédiate. Alors ces Aztèques, par leur système énergétique, avaient inventé la même chose. Alors, moi j'ai envie de vous raconter des histoires toutes bêtes, parce que quand on a vécu comme ça sur 20 ans dans un pays comme ça, On est touché par... En fait, on ne se rappelle que d'expériences qui nous ont marquées à vie. Des expériences qu'on vit ici de manière un peu différente. Je sais pas, tout à l'heure, je parlais avec une amie d'armes, de grenades sous les lits, et je ne sais quoi. Enfin, de la façon dont on pouvait tout à coup être pris dans un milieu qui était violent. Il y a le Mexique, c'est ça d'abord. C'est une étrange violence immédiate. Et tout au début, quand j'étais étudiant au Mexique, je me suis rendu sur la côte ouest chez un ami qui offrait pour une année son temps à la médecine. C'est-à-dire quand vous terminez vos études de médecine au Mexique, eh bien vous devez consacrer une année à un endroit ou sur un endroit qu'on vous désigne sans que vous puissiez rien faire. Et puis lui, c'était un peu la mort. On l'a envoyé dans un tout petit état extrêmement pauvre, au pied d'un volcan en éruption, qui grondait toutes les nuits, dans un endroit où il n'y avait que deux personnes qui tenaient une petite hacienda où on faisait de la canne à sucre, qui tenaient un magasin dans lequel il y avait 3 haricots, un peu d'allumettes, et puis bizarrement à l'époque, une télévision. C'était la première fois qu'on voyait une télévision à 100 km à la ronde, qu'elles avaient posée tout en haut, en dessus du maïs et des allumettes. Et on voyait par exemple les premiers humains arriver sur la Lune. Bon, c'est une petite image comme ça. Ça commence comme ça. Alors vous aviez 200 paysans à l'entrée, assis sur la caisse de haricots, qui regardaient un alunissage dans un endroit où il n'y avait pas de voiture. On était à 40 km de piste de tout. Il y avait une école à ciel ouvert, il y avait une église qui était désaffectée, il y avait une rivière à sec, et puis en face, il y avait un autre village qui était l'ennemi juré de ce village-là. Ben, c'est là que j'ai vécu mes plus grandes aventures du Mexique, par rapport à la mort, puisque c'est un peu le sujet de ce soir. Il y a la façon dont des humains perdus comme ça en pleine campagne, des indigènes, des paysans tout à fait normaux, peuvent réagir vis-à-vis de la mort. Et j'ai touché en même temps la révolution, les armes, enfin ce qu'un Mexicain a souvent dans la poche. Alors au bout de quelques temps, moi, bon, j'avais appris très vite par cet ami médecin que ces deux villages non seulement étaient ennemis, mais que personne n'avait passé la rivière depuis plusieurs années. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait eu un antagonisme tel que les deux villages étaient complètement séparés. Et puis en fait, l'école ne fonctionnait que d'un côté, puisqu'on ne pouvait pas la faire fonctionner des autres, et que l'église ne fonctionnait que de l'autre côté, parce qu'on ne pouvait pas venir faire la messe de l'autre côté non plus. Donc c'était des gens qui venaient de l'extérieur, mais qui n'osaient jamais passer cette frontière extrêmement dangereuse, sauf éventuellement un médecin aussi fou que mon petit copain, qui lui avait décidé qu'il pouvait soigner les gens des deux côtés. Alors personne ne venait à consultation, mais il y allait. Alors le premier gros souvenir, c'est une femme qui est arrivée dans notre hôpital, 2 lits, j'en occupais un, une tôle sur le toit, quelques scorpions qui tombaient chaque fois qu'on faisait fonctionner l'arrosoir pour se doucher, un petit lavabo tout blanc qui changeait de couleur chaque fois que les cucarachas voulaient bien s'en aller quand vous mettiez la lumière le soir, qui d'ailleurs s'arrêtait à 8h30, une petite partie de domino avec la petite jeune fille de 15 ans. Des garçons qui se mettaient en face sur le mur de l'école démolie et qui chantaient a cappella. C'est vous dire s'il y avait de l'argent. C'était vraiment des endroits les plus pauvres que j'ai rencontrés au Mexique. Incapables de s'acheter une guitare pour chanter une sérénade à une jolie fille. Et puis, cette indienne qui arrive, enfin cette paysanne qui arrive un soir et qui nous dit « Oh, j'ai des douleurs terribles dans l'estomac, oh, j'ai mal au ventre. » Arturo, pour le nommer, au bout de quelques secondes, il dit, bah, écoutez, je crois que vous en êtes bien au 8e mois, enfin, en tout cas, 7 mois et demi, 8 mois, peut-être même un petit peu plus, vous êtes enceinte. Oh, c'est pas possible, mon mari est aux États-Unis depuis une année, il est bras zéro, donc ça signifie qu'ils n'ont pas l'argent du tout et qu'il s'est enfui aux États-Unis, enfin, qu'il a essayé de passer la frontière pour avoir un peu d'argent, il y a plus d'une année qu'il est là-haut, c'est pas possible. En toute candeur, en disant, c'est sûrement un gros problème d'intestin. Puis au bout de quelques semaines, effectivement, elle est revenue, à l'hôpital, mais Arturo était absent. Il se trouvait en fait dans le village d'en face pour une enfant qui avait été blessée et Bon, on lui avait recassé une jambe, on avait mis de la boue, enfin là, il y a tout le problème des sorciers. J'avais trouvé plus d'une cinquantaine de sorciers sur les deux villages. Et au lieu d'être soigné par un vrai médecin, ben, c'était le rebouteux du coin qui l'avait infecté sans le vouloir en recassant le tout. Et puis en urgence, à 2 h du matin, avec 40 et quelques de fièvre, il fallait bien se déplacer. Il est allé pendant ce temps-là, naturellement, notre brave femme enceinte est arrivée. Je suis resté 2 mois, hein, donc j'ai eu le temps de passer du 8e mois au 9e mois. Elle est arrivée avec une dame assez âgée, et puis elle a occupé le 2e lit, et puis elle s'est arrangée. Bon, moi j'étais très gêné au moment du cordon, hein, cordon ombilical, parce que on ne sait pas très bien ce qu'il faut faire avec ce genre de choses quand c'est votre premier enfant. Alors j'ai mis une pince à chaque bout, parce qu'on avait cette espèce de pince qui se fermait plus, là, enfin qui ne se rouvrait plus. Et puis quand Arturo est rentré, bon ben on a discuté le coup, savoir ce qu'on allait faire avec cet enfant, parce qu'on sentait bien qu'il y avait une grande gêne, et on a décidé d'abord de s'en occuper un peu, c'est-à-dire de le soutenir un peu moralement, parce qu'il n'avait pas de père et que la famille, là on l'avait déjà compris, n'était pas très coopérante, dans la mesure où le mari n'étant pas là au bon moment, ça paraissait un peu curieux qu'elle soit enceinte. Alors elle était d'accord qu'il s'appelle Arturo, c'était naturellement un cadeau au médecin. Et puis on l'a baptisé, on a été chercher un petit bout de tissu pour qu'il ait un peu l'air un peu correct, on a fait venir la Jeep, le curé, etc. Et puis la même semaine, on a été acheter une boîte de macaroni chez les vieilles dames, parce qu'il a fallu l'enterrer, bien sûr. Donc il avait été étouffé par sa mère. Je dirais que c'est peu de choses. Là, je vous donne que des cas qui, simplement pour vous montrer qu'on ne le vit pas forcément dans notre vie quotidienne ici en Suisse. Puis le deuxième exemple, eh bien, c'était un peu la suite de ce qui s'est passé dans ce village, de ces ignorances, de cette façon un peu renfermée, de cette communauté extrêmement. Cet enfant n'a pas été sacrifié, on est bien d'accord. Mais c'est pour une question de communauté, c'est pour une question de famille qu'il a été étouffé. C'est parce qu'il n'y avait pas, il n'y avait pas d'autre possibilité par rapport à l'entendement de la société dans laquelle il vivait. Ça, je ne l'ai peut-être pas compris tout de suite, il a fallu que je finisse un peu mes études. Mais le deuxième exemple est beaucoup plus intéressant, c'est ceux du village d'à côté. Il y a eu la fête de Saint-Jean. Donc, c'est une fête que vous connaissez, qui a lieu au mois de juin, Et puis bon, mais il fait dans cet état de Colima, du côté Pacifique, il fait déjà 30, 35 degrés. Le soir, on peut rester dehors assez longtemps. Et puis il y a ce volcan qui est toujours rougeoyant tous les soirs, là, qui fait un peu de bruit, un peu d'ambiance. Et pour cette fête, on avait trouvé effectivement une guitare et une dame pour faire des tortillas. Vous savez, la tortilla, c'est une crêpe qu'on écrase entre deux mains, comme ça, et puis on pose ça sur de la graisse chaude, et puis on met quelque chose dedans, enfin, quelques petits légumes qui traînaient par là. Et c'était vraiment une fête exceptionnelle, parce que tout à coup, il y avait 100, 150 personnes sur la place démolie du village. Et ce qui a été fabuleux, c'est que vers 10, 11 heures du soir, il y a eu un petit groupe de jeunes qui avaient osé passer la rivière et qui étaient venus se joindre aux jeunes du village où nous étions. Alors là, ça a été fabuleux parce que, bon, il faut bien comprendre que l'alcool, on parlait de déséquilibre et d'énergie, c'est une fête. Donc, obligatoirement, il faut la dépenser au maximum. L'alcool, avec nos petites vieilles qui faisaient de la canne à sucre dans des choses en bois, du jus simplement traité avec des petits fourneaux à la mode 18e. Alors, pour que ce soit bon à boire, c'était pas la question de faire du rhum. Ils allaient acheter, par piste interposée, par jeep interposée, des gros tonneaux d'alcool pur à 96 degrés, puis mélanger ça avec de la canne à sucre brune, enfin de la canne à sucre et de l'eau, pour que ça ait quand même un meilleur goût. Mais c'est vrai qu'au bout d'une heure, une heure et quart, à ce régime-là, question de déséquilibre, on est bien déséquilibré, et en moins de deux heures, il y a eu des contacts qui ont été formidables, les jeunes se sont tapés dans le dos, enfin comme les Mexicains sont d'abord très chaleureux, parlent beaucoup, sont très expansifs. Et tout à coup, il y a eu un coup de poing, il y a eu une petite chose comme ça, et on a entendu 5 coups de feu. Et puis il y a eu 5 morts par terre, enfin 5 personnes couchées par terre. Et puis bon, bah, Arturo, il est médecin, moi j'avoue que j'ai pas tellement froid aux yeux. Je m'occupe toujours de l'autre, je l'ai remarqué chaque fois qu'il y avait un blessé sur la route ou un problème, bah, involontairement je m'avance plutôt que de reculer, j'ai pas peur du sang, je dois être un peu aztèque. Et on nous a empêché de le faire, c'est-à-dire qu'on nous a vraiment pris par les épaules, on nous a tenus par les vêtements et on nous a enfermés avec les bancs de l'école à l'intérieur de notre hôpital. Et le lendemain matin, effectivement, quand on nous a laissé sortir, on a trouvé Saint-Croix le long de la rivière. Un jeune avait été enterré, il n'y a jamais eu de police, jamais eu de problème. Mais voilà encore un cas qui nous montre que la mort, sous cet angle-là, moi elle ne m'a pas paru curieuse parce que les 5 sont morts, pas du tout. Elle m'a paru curieuse parce que dans un village où on gagne 30 centimes par jour et par famille, il y avait 5 pistolets pour tuer 5 personnes. Et qu'il y avait 5 fois des balles dans ces pistolets pour pouvoir les tuer. Dans un milieu où économiquement parlant, ce n'était pas possible de tuer, la mort était présente dans la poche de ces gens-là. Ça me paraît assez fabuleux par rapport au Mexique. Ça, vous aurez compris qu'effectivement, au Mexique, on était carrément assassinés à tous les coins de rue. Hein. Je veux dire par là qu'il ne faut pas croire que c'est ça. Il faut faire très attention parce que le Mexique, au contraire, c'est un pays très calme. Mais ce qui est quand même, enfin, ce qui intrigue en tout cas les gens qui me parlent du Mexique, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut s'y déplacer, comment on peut y vivre, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui visiter de manière un peu plus profonde un pays comme celui-là. Et puis d'abord, est-ce qu'effectivement c'est un pays dangereux, tout bêtement? Alors ça, je crois pas. Hein. Le Mexique, c'est avant tout un fantastique pays avec une diversité incroyable. On peut y retourner 10 fois et ne jamais faire le même pays. Qu'on cherche du peyotl pour se droguer ou qu'on cherche une plage pour se bronzer, je crois qu'on va visiter aussi un autre Mexique. Et rendez-vous la semaine prochaine.